Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 19e de la saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour David Granel et Marie-Hélène Régnier.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes respectivement responsable Narbonnais et Audois du... alors maintenant, du parti La République En Marche. Enfin, vous nous expliquerez tout ça plus précisément dans une troisième partie. Mais auparavant, comme c'est traditionnel, nous avons un sommaire. Alors Michel, tu vas nous parler tout d'abord d'une guerre du rail qui, selon toi, n'aura pas lieu. Tu nous annonces qu'on va fumer le calumet de la paix, ou presque. Enfin, bon.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais prendre le contre-pied habituel, comme d'habitude. ce que je lis dans la presse nationale.
Et comme c'est la règle dans cette émission, qui sont quand même basées sur des contre-regards.
Exactement.
Dans une, ensuite, deuxième partie, contradiction existentielle d'un député, alors ça, c'est un sujet sur lequel tu reviens souvent, parce qu'il y a matière à revenir, parce qu'effectivement, il y a une contradiction existentielle.
C'est cela.
Probablement. Ensuite, nous parlerons d'un... Alors après le député, le sénateur. Mmh. Un sénateur que tu qualifies de super maton. Tu nous diras pourquoi. Et puis, enfin, deuxième partie, La République En Marche est en poste, ou en piste, plus exactement pour les municipales. Mais comment? Tu te poses la question. Évidemment, nos deux interlocuteurs, je l'espère, auront là-dessus des réponses. Tout d'abord, donc, la guerre du rail. Alors, c'est cette fameuse réforme de la SNCF,
oui,
qui est finalement est un grand feuilleton de la Ve République.
Oui, parce que tous les gouvernements de gauche et de droite de cette Ve République se sont essayés à réformer la dite SNCF, et ils se sont tous cassés les dents, ou, pour les plus prudents, se sont abstenus de toute réforme les concernant. La crainte étant évidemment que la France soit paralysée par les salariés de cette entreprise nationale dont on sait, en fait, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à quel point, quand ils se mobilisaient, ils étaient capables de mettre le pays en difficulté.
Bah, donc, ayant un monopole, c'est facile.
Exactement. Hein. Et puis bon, il y a une tradition syndicale, etc., la SNCF, c'est comme ça, c'est très 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 difficile que de faire bouger les lignes, si je puis dire, dans cette institution nationale qu'est la SNCF. Cela dit, et surprise, l'actuel gouvernement, et par la voix de son Premier ministre, mais ça avait été plus ou moins annoncé par le président Macron pendant la campagne, en fait, des présidentielles, a décidé d'y aller et de mettre la jambe, comme on dit en tauromachie, hein, devant le taureau. Là, le taureau, c'est syndicat, CGT, Sudrail notamment.
Alors on agite la muletta.
Il a dit, bon, maintenant, on y va.
Ouais. Alors, courage ou témérité?
Je crois que c'est du courage politique, et il en faut. Alors, cela dit, quand même, il convient de rappeler un certain nombre de réalités, j'allais dire, d'ordre financier, hein, à nos auditeurs, car on commence à le savoir maintenant, mais il est bien de le rappeler, la SNCF est quand même un immense paquebot, en fait, hein, très lourd, à la dérive. Hein, à la dérive. Quelques chiffres seulement. Une dette totalement hors contrôle qui est passée de 44 milliards d'euros en 2010 à 62,5 milliards en 2016.
Mmh. 44. Peux-tu donner un 60. Élément de comparaison par rapport à un budget, par exemple, budget de l'État?
Ah ben c'est 4 fois le budget de l'Éducation nationale.
Bah, voilà.
Par exemple. Quatre fois le budget de l'Éducation nationale.
Oui, ça fait des sous.
En dette. On continue. Un régime spécial des cheminots, avec des départs à la retraite à 55 ans pour le personnel non roulant et 52 pour les conducteurs, qui coûte 4 milliards par an à la collectivité. Deuxième point. Des charges d'exploitation, c'est-à-dire si on regarde simplement le fonctionnement de la SNCF, des charges d'exploitation qui sont à peu près de l'ordre de 22 milliards d'euros, qui sont financés à hauteur de 10 milliards et demi, soit 47%, par des dépenses publiques, c'est-à-dire des prélèvements obligatoires. Près de 47%, en fait. Des charges d'exploitation de la SNCF sont financées par des dépenses publiques. 47%.
Donc on est loin de l'autosuffisance.
Et on a des capitaux propres négatifs de 6 milliards d'euros. Voilà quelques chiffres qui donnent une idée de l'état financier dans lequel est la SNCF aujourd'hui. Ça veut dire qu'au total, l'entreprise nationale, qui est la SNCF, bénéficie d'un soutien de 14 milliards d'euros. Et je reviens à mon éducation nationale, ce qui est l'équivalent d'un budget annuel de l'éducation nationale. Voilà quels sont les chiffres. Alors, je ne mets pas en face de ces chiffres-là la qualité du service offert par la SNCF. Tous les auditeurs ont en mémoire ce qui s'est passé dans certaines gares, en fait, à Saint-Lazare, ce qui se passe au niveau de certains passages à niveau, les retards du TGV, en fait, bref, bon, un certain nombre de problèmes et de dysfonctionnements que les utilisateurs ou pas des trains de la SNCF connaissent bien.
Oui. Donc pour résumer d'une formule, ça coûte cher, mais ça satisfait pas.
Exactement. Donc de sorte qu'il fallait absolument maintenant que les choses soient dites clairement et surtout que l'on avance des propositions afin d'améliorer à la fois la qualité du service de cette entreprise et surtout de la remettre sur de bons rails financiers et le plus vite possible, d'autant qu'en 2022, la circulation des trains sera soumis à la concurrence et donc les entreprises allemandes en fait ou anglaises pourront venir sur les trains, enfin sur les rails plutôt de notre pays pour offrir des services en compétition avec la SNCF.
Oui, on en parle depuis longtemps d'ailleurs, c'est dans l'air depuis longtemps.
C'est 2022, donc il faut préparer aussi en fait, la structure de la SNCF à accueillir ce type de concurrent. Et alors évidemment, ça, levée de bouclier général, à droite, par intermédiaire de M. Wort, ça va pas assez loin, classiquement, ce qui est quand même un peu gonflé quand même, hein, pour un représentant du Parti républicain qui a gouverné l'État pendant je
Chirac,
ne sais combien d'années,
Sarkozy,
et qui n'ont strictement rien fait, quoi. Hein. Et puis, à l'extrême gauche,
côté,
on casse le service public. Évidemment, donc des positions très polarisées et qui sont surtout déterminées et conditionnées par des postures idéologiques plutôt que par une analyse des problèmes réels de la SNCF et de ce qu'il convient de faire sans casser pour cela l'outil. Et pour cause, parce que quand même, ce qui n'est pas dit, je trouve insuffisamment quand c'est dit par les organes de presse, de manière générale, télé, radio, en fait, et journaux, c'est que la proposition de réforme de monsieur, en fait, Philippe, telle qu'il a annoncé, n'est pas quand même une proposition de réforme extraordinairement révolutionnaire. Qu'on en juge. Il propose de modifier la structure juridique de la SNCF, qui aujourd'hui est répartie en trois petits morceaux, en fait, établissement public à caractère industriel, bref, un truc extrêmement complexe auquel personne ne comprend rien, en une seule société à capitaux publics, et qui plus est, des capitaux qui ne seront incessibles. Ça veut dire que, bon, de toute façon, la SNCF aura la garantie, Édouard Philippe, dit aux Français, aux contribuables, l'entreprise SNCF sera toujours une entreprise publique, à capitaux publics, et ces capitaux seront incessibles. Point. Donc on ne touche pas au caractère d'une entreprise.
On n'est pas parti vers une privatisation, c'est ça que ça veut dire.
Deuxième point, il n'est pas question de toucher au statut des personnels actuels de la SNCF. Même si les concurrents arrivent et donc reprennent une partie les personnels SNCF qui iront en fait à la concurrence, ces personnels SNCF garderont leur statut de la SNCF. Hein. Donc, si réforme il y a du statut, elle ne concernera que les nouveaux entrants, les nouveaux recrutés par la SNCF ou d'autres. Et enfin, troisième point, qui était un point important soulevé par les élus, notamment locaux et certains territoires, à savoir que pas question de toucher aux petites lignes, parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas déterminer de Paris, il y a 9000 kilomètres de petites lignes et de lignes déficitaires, on ne va pas déterminer de Paris ce qu'il convient d'arrêter ou pas, en fait, comme circulation sur des petites lignes. Donc,
ça renvoie le débat. Ça sera matière à discussion.
Et surtout, discussion avec les régions qui ont la compétence en aménagement du territoire sur ce type, effectivement, de mobilité-là. On voit très bien que sur ces trois aspects-là, bon, il n'y a rien de révolutionnaire du tout, hein, et que, voilà, sur quelle raison.
C'est ce qui te fait dire, donc, que la bataille du rail n'aura pas lieu.
Oui, mais c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que la conjoncture politique se prête parfaitement bien, effectivement, à engager maintenant ce genre de réforme, y compris une réforme qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, ne casse pas, effectivement, des briques, quoi. Hein. Il n'y a pas d'élection en juin 2018. Donc le paysage électif, électoral est débarrassé de toute pression, en fait, du style « si vous faites ça, on va vous sanctionner, en fait, électoralement ». Donc 2018, c'est libre. l'opposition de au gouvernement est totalement bon dans les choux, enfin, oui, complètement déstructuré.
Ça, tu en as parlé X fois dans cette émission.
À gauche, ils sont, on ne sait pas où ils sont, donc débarrassés. Et surtout maintenant, l'opinion publique est totalement acquise, si je puis dire, à une réforme, parce qu'elle a bien conscience, effectivement, à la fois des problèmes financiers, donc de structure, et surtout de la qualité du service de SNCF. Donc, toutes les conditions à la fois, le contenu de la réforme et les conditions politiques et institutionnelles font qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut dire, sauf la CGT qui le dit,
oui,
évidemment,
bien quoi, sûr, bah c'est...
que il va y avoir une grève de un mois, ça va être la guerre, et que, comme le disait un des leaders de la CGT, on va faire plier le gouvernement. Je fais le pari, je peux me tromper. Un, il n'y aura pas de grève pendant un mois, et deux, le gouvernement ne pliera pas, et que la réforme se fera tranquillement, si je puis dire.
Voilà. Alors, à suivre donc. Un petit mot sur ce que tu appelles les contradictions existentielles d'un député, chose sur laquelle tu as déjà pas mal insisté et expliqué. Alors, un député un député national.
Oui, mais...
Et pourtant, il est forcément local.
Un député, c'est un monsieur, en fait, ou une dame, hein, qui a été élu pour voter et la loi et contrôler l'exécution de la loi. Bon, je résume à l'extrême, évidemment.
Oui, hein. Oui, mais
c'est d'abord ça son job, son métier.
Hein.
C'est pas le président du syndicat de sa circonscription censé représenter tous les intérêts économiques et sociaux de chacune des catégories de son syndicat.
Voilà.
Je sais rien, moi.
Dans la pratique, souvent, on revient vers ça.
Et oui, dans la pratique, c'est compliqué.
Parce qu'il est député d'un territoire.
D'une circonscription. C'est ça. Donc, et en général, ceux qui se font élire, en fait, hein, ou qui candidatent aux élections, ne manquent jamais de rappeler qu'ils vont défendre les intérêts de la Narbonnaise, par exemple. Les intérêts de la Narbonnaise peuvent se trouver quelquefois, ou de certains acteurs, hein, ou intérêts de la Narbonnaise peuvent quelquefois se retrouver en contradiction avec les intérêts de la nation tout entière.
Voilà, ce que tu as fait ressortir
plusieurs fois. Et récemment, à l'occasion d'un compte rendu, d'une réunion organisée par les dindons de la farce et le député de la circonscription de Narbonne, voilà, expression de cette contradiction s'est exprimée, si je puis dire, parce que, bon, voilà. On fait campagne pendant l'élection, voilà, aux législatives sur l'intérêt d'avoir une prison, par exemple, être sur la circonscription de Narbonne, et puis, bam, on se retrouve devant des gens qui n'en veulent pas, et quand on est convoqué devant eux, si je puis dire, on dit, ben oui, bon, ben, d'accord, mais on la reportera à la deuxième ou troisième tranche, c'est-à-dire à Saint-Glinglin, dans 20 ou 30 ans, hein, ce qui est une manière de se défausser, peut-être, hein, pas très élégante, il faut bien en convenir, d'un vrai problème de fond qui est oui ou non, est-ce qu'on la veut ou pas, là, précisément. Hein,
un écartèlement du député, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas.
Exactement.
Et je suis certain, et là, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait, je me trompe beaucoup, on reviendra assez souvent sur ce genre de contradiction que doit assumer un député.
Oui, et notamment dans la deuxième partie de l'émission, puisque un sénateur du coin aussi se trouve confronté à ce genre de contradiction.
Et dans la même contradiction, donc voilà, ça fait du monde et on marque quand même une première pause.